Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Entretiens du Parti de la France. Et aujourd'hui, je reçois Bertrand Saint-Germain. Vous l'avez peut-être vu récemment sur TV Liberté. Bien sûr, il a sorti un livre qui s'appelle « La République des juges contre la nation ». Comment en sortir? Bien évidemment, Bertrand, vous avez un doctorat en droit, vous êtes un élu local, vous êtes consultant juridique. Merci d'avoir accepté cette émission au sein de la chaîne du Parti de la France. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Merci Alexandre de votre invitation. Voilà, on va essayer d'explorer un peu cette question.
Et je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté. Je vais vous poser diverses questions, vous vous en doutez bien. Bien évidemment, comme d'habitude, ça permettra aussi de présenter le livre. Bien évidemment, il y aura dans la description, en haut de la description, le lien internet pour pouvoir acheter le livre directement sur la boutique de TV Liberté. Voilà. Merci beaucoup pour votre acceptation. Alors la première question que j'aimerais vous poser, bien évidemment, dans ce contexte du procès en cours de l'appel de Marine Le Pen, votre livre, il dénonce une dérive judiciaire qui menace une forme de souveraineté populaire qui serait menacée actuellement. J'aimerais vous demander, est-ce que le contexte dans lequel on est avec cet appel, avec Marine Le Pen, ses assistants parlementaires, en est un exemple parfait avec des juges qui outrepassent leur rôle pour sanctionner une opposition politique, selon vous?
Alors, il y a deux affaires dans cette affaire Le Pen. Il y a finalement la question technique des attachés parlementaires, de savoir qui est leur employeur et de la nature des missions qui vont leur être confiées. Ça, c'est une question technique qui doit être tranchée. Alors, sur un point sur lequel il n'y a pas réellement de droit, c'est-à-dire de détermination exacte de ce que sont les missions de ses assistants. Bien, là-dessus, il y a débat, je laisse les avocats de Marine Le Pen s'en charger, mais dans l'affaire, il y a une seconde affaire, il y a une affaire dans l'affaire. Cette affaire dans l'affaire, elle a trait, évidemment, à la sanction prononcée en première instance par le tribunal correctionnel de Paris et surtout la décision d'assortir la sanction, donc 5 ans d'inéligibilité, d'une exécution provisoire. Alors, le principe de l'exécution provisoire, c'est très simple, c'est que la décision va s'appliquer nonobstant appel. C'est-à-dire qu'on est en matière pénale, même si on fait appel, la décision d'inéligibilité s'applique. Et donc, l'inéligibilité emporte ici l'impossibilité de se présenter à de nouvelles élections. Et ça, c'est un biais politique, c'est une volonté explicitement revendiquée d'ailleurs par les juges en première instance, de mettre cette inéligibilité en œuvre par le recours à l'exécution provisoire. Et ça, oui, ça questionne. Oui, il y a une dérive politique dans ce point précis.
Une dérive politique aussi un peu plus explicite, j'ai envie de dire, parce qu'on parle beaucoup de la France, bien entendu. Chaque pays a ses propres règles, son propre droit. Mais ça me fait penser, bien évidemment, à la Roumanie, où il y avait Calin Georgescu, qui s'est vu, lui aussi, empêché de remporter la présidentielle. C'est une situation qui pourrait être comparable? On pourrait faire un petit parallèle? Alors,
elle est comparable en ce que l'esprit guidant ces décisions est semblable. Il s'agit d'une volonté d'écarter un candidat que l'on craint. En Roumanie, on rappelle le contexte, le candidat nationaliste Calin Georgescu arrive en tête du premier tour, avec une dynamique qui se dessine, qui semble lui être favorable. Hein. On ne sait pas évidemment ce qui en aurait été. Et là, on évoque des manœuvres qui auraient eu lieu sur Internet. Et pour dire finalement, eh bien, il est urgent de stopper le processus électoral, c'est ce que décide la Cour constitutionnelle roumaine, et de reporter non pas seulement le deuxième tour, mais toute l'organisation du scrutin, 3 mois plus tard. Et là, on décrète que le candidat arrivé en tête au mois de décembre, eh bien, ne pourra pas se présenter à l'élection, qui ne remplit pas les conditions. Et donc ici, oui, il y a une dimension politique dans la volonté d'écarter un candidat qu'on juge dangereux. Et dans l'affaire Le Pen, ça prend la forme de l'exécution provisoire. La dimension politique est certaine, et ça s'inscrit aussi très certainement dans la volonté de juge de remettre en cause le politique. Comme, toute chose égale par ailleurs, on l'avait vu dans le recours à l'exécution provisoire vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. On a là, quoi que l'on pense du président de l'ancien président de la République, il y a là une volonté très claire d'humiliation de Nicolas Sarkozy.
Oui, c'est vrai que j'allais justement y venir, ce principe d'exécution provisoire. C'est vraiment ça qui vous dérange, parce que Marine Le Pen en soi, actuellement là, ne représente pas un danger pour autrui. Bon, je pense que tout ce qu'elle a fait peut être condamnable, parce qu'elle n'a pas fait, comment je pourrais dire, elle a pas fait beaucoup d'efforts pour être dans les clous sur ces histoires d'assistants parlementaires. Mais c'est pas le fait qu'elle soit condamnée qui vous pose problème, c'est le fait qu'il y ait une exécution provisoire qui l'empêche de se présenter aux Français, c'est ça?
Tout à fait, parce que l'exécution provisoire se comprend totalement. Si on arrête un criminel en flagrant délit, un meurtrier, on se dit qu'effectivement, on ne va pas le remettre en liberté dans l'attente de son procès. Quelqu'un qui s'en serait pris à des femmes, qui les aurait agressées, ou des hommes d'ailleurs, à de multiples reprises, il est confondu, il est convaincu d'être l'auteur des infractions en question, on ne va pas le remettre en liberté dans l'attente du procès. Ça n'aurait pas de sens. Ici, l'exécution provisoire se justifie pleinement. En revanche, pour une infraction de nature politique, et il faut quand même revenir un instant sur cette histoire d'attaché parlementaire, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Ces personnes recrutées en tant qu'attaché parlementaire ont effectivement travaillé. Donc ici, il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a pas lieu d'assortir la décision d'une exécution provisoire, si ce n'est la volonté d'interférer dans le jeu politique et de chercher à écarter Marine Le Pen.
Mais vous pensez pas, enfin, c'est une question aussi qui m'arrive dans l'esprit, si la justice veut effectivement interférer dans la gestion politique et dans le jeu démocratique, la population, normalement, elle devrait le voir. Par exemple, en Roumanie, les élections ont été annulées pour une question d'ingérence russe. Il n'y a pas eu de preuve, alors sauf si je les ai ratées, mais il n'y a pas eu de preuve comme quoi il y a une ingérence russe. Le peuple roumain, ça ne devrait pas l'indigner?
Il n'y a eu aucune preuve. Après, c'est aussi une question de contrôle des médias, d'accès aux médias. Dans les élections suivantes, un autre candidat du camp national est également arrivé en tête, mais n'a pas eu la même dynamique que celle qu'avait Kalin Georgiou, et il a été battu au deuxième tour. Pour les auditeurs qui nous regardent, c'est qu'ils ont déjà l'habitude d'aller sur Internet pour obtenir de l'information. Il ne faut pas oublier que pour une majorité de Français, la source principale d'information, c'est TF1 et France Télévisions, où les informations, comme on le voit dans la commission d'enquête de Charles Laloncle, il y a quand même des biais idéologiques marqués. On va en rester là. Et pour beaucoup de citoyens français, il n'y a pas l'accès à cette autre connaissance, à la réinformation, et ça, c'est sans doute dommage.
D'un côté, moi j'entends j'entends énormément de gauchistes, d'influenceurs de gauche qui disent que les médias appartiennent à des amis d'hommes politiques de droite. Et de l'autre côté, j'entends la droite qui dit que les médias sont alliés avec la justice ou autres qui veulent interférer justement avec la démocratie. Il y a deux sons de cloche un petit peu. Vous, quel est votre avis sur tout ça? Vous voyez une dissonance?
Alors, il y a des points de concordance. On n'est pas dans l'identité absolue, mais il y a des points de concordance. Le point commun entre le système médiatique et le système judiciaire, c'est sans doute celui de n'être pas des personnes élues. Alors, ensuite, les logiques sont différentes. Le système médiatique a vocation à gagner de l'argent, sous la réserve du service public. Le système judiciaire n'a pas cette vocation-là. Mais le point commun, c'est qu'on n'a pas affaire à des pouvoirs élus ou des autorités élues. D'ailleurs, le juge n'est pas un pouvoir, hein. La Constitution parle bien de l'autorité judiciaire, parce que justement, en démocratie, le pouvoir vient du peuple. Or, les juges ne sont pas élus. Donc, c'est explicitement pour cela que la Constitution leur réserve le qualificatif d'autorité judiciaire. Donc, il y a ce point de concordance entre médias et juges qui est finalement une conception oligarchique du pouvoir et de ne pas vouloir retourner devant le peuple ou rendre des comptes au peuple.
Justement, votre livre s'appelle La République des juges contre la nation, comment sortir. Évidemment, quand j'ai vu La République des juges, ça m'a fait penser au livre, vous savez, d'Éric Zemmour qui a été écrit en 1997, hein, c'était il y a presque 30 ans, il y a 29 ans, qui s'appelle La dictature des juges. Alors déjà, je voudrais savoir si est-ce que la situation a évolué depuis 30 ans et est-ce qu'elle évolue dans le bon sens ou dans le mauvais? Et enfin, est-ce que vos deux livres, vos deux ouvrages se ressemblent?
Alors, ils se ressemblent en ce qu'ils s'inspirent de la même source. Ils ne se ressemblent pas parce que Éric Zemmour est un polémiste, je suis juriste, et l'approche n'est pas la même. Ensuite, le coup d'État des juges et la dictature des juges évoqués par Éric Zemmour, et je dirais, sont conformes au personnage. Ce sont des mots polémiques qui ne correspondent peut-être pas exactement à la réalité technique de ce que serait une dictature ou de ce que serait un coup d'État des juges. Voilà, si on parle de coup d'État, ça suppose qu'il y a une organisation plus ou moins secrète, à tout le moins discrète, qui va organiser les choses, préparer son plan de bataille, ses mesures, etc. Rien de tel avec les juges. Les juges sont quand même globalement profondément individualistes, ils travaillent seuls pour l'essentiel et ils sont aussi, il faut le dire, globalement rétifs à l'autorité, spécialement celle qui pèserait sur eux. Donc de ce point de vue-là, l'image du coup d'État des juges, elle est intéressante, elle est médiatique, elle sonne fort et clair. Techniquement, elle est discutable. L'idée de République des juges me semble plus intéressante parce que finalement, elle évoque la res publica, le bien commun, qui est accaparé par quelques-uns pour en faire leur bien particulier. Voilà. Comment dans le système, une caste judiciaire, une oligarchie finalement, prend peu à peu un rôle central, un pouvoir central, et d'abord, et sans doute aussi beaucoup, parce que le politique ne prend plus ses responsabilités lui-même. La nature ayant horreur du vide, la justice, beaucoup de juges sont amenés à prendre une place que leur laisse le politique.
Vous n'êtes pas seulement juriste, vous êtes aussi un élu local, hein, je le rappelle. Donc je me permets de faire une petite parenthèse pour vous poser une question qui n'est pas forcément d'ordre juridique, on verra sur le
Oui.
juridique juste après. C'est que si Marine Le Pen fait tant peur, j'ai envie de dire, au système, je crois savoir que, enfin, j'ai l'impression, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais Bardella a plus de chances de l'emporter que Marine Le Pen. Donc est-ce que ce serait pas plus rentable de laisser Marine Le Pen concourir, justement, pour éviter que le Rassemblement national prenne le pouvoir?
Là, on quitte même la politique pour rentrer dans le jeu de billard à deux, trois ou quatre bandes. Certains pourraient dire qu'effectivement, laisser Marine Le Pen concourir, c'est se réserver un adversaire peut-être moins dangereux que Jordan Bardella, et que cela pourrait être également de nature à soulever des tensions au sein même du Rassemblement national. Mais ce ne sont là qu'expectatives. Voilà, c'est difficile de dire autre chose. La campagne présidentielle est dans un peu plus d'un an. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Et on a vu pendant la dernière présidentielle que les courants peuvent s'inverser très nettement et très rapidement. On l'a vu sur la montée et la baisse d'Éric Zemmour. On l'a vu sur la montée fulgurante de Jean-Luc Mélenchon, qui a sans doute obtenu ainsi ou provoqué un vote utile en faveur de Marine Le Pen. Un an avant l'élection, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Si on regarde les sondages d'opinion un an avant chaque présidentielle, on n'a pas toujours, parmi les deux favoris, celui qui gagnera à la fois suivante. Voilà, donc.
C'est vrai, c'est vrai. Surtout que là, on ne connaît même pas la liste des candidats. Moi, on me pose souvent la question dans mes émissions, qui va gagner en 2027? On ne connaît même pas la liste des candidats. Donc, c'est quand même très compliqué de répondre à ce genre de questions. Hein. On est bien d'accord.
Oui.
On va un peu se concentrer aussi sur ce qu'il faut faire pour améliorer cette situation, qui, je rappelle, bah, le livre d'Éric Zemmour, c'est en 1997, hein, donc c'est-à-dire que c'est des problématiques qu'on scoutine depuis des décennies, c'est pas quelque chose de récent, visiblement, c'est quelque chose qui va peut-être amener à s'empirer. Mais justement, pour éviter d'empirer tout ça, vous avez des propositions de transparence et de responsabilisation des juges, par exemple. Justement, concrètement, pour que nos auditeurs comprennent bien, comment est-ce que vos propositions, elle se serait appliquée dans le cas du traitement de l'affaire de Le Pen, pour citer celui qu'on a actuellement. Comment ça se serait matérialisé concrètement, vos propositions, si elles avaient été mises en place?
Alors, parmi mes propositions, certaines peuvent être qualifiées d'un peu conjoncturelles, c'est-à-dire qu'on peut les mettre en œuvre en ce moment, assez rapidement, sans modifier grand-chose à l'ordonnancement judiciaire français. Et puis d'autres, évidemment, soulèvent la question d'une réorganisation beaucoup plus globale du monde judiciaire. Pour ne prendre qu'un exemple, quand on parle, on y reviendra peut-être, mais quand on parle d'élection des juges, alors, il ne s'agit évidemment pas de transposer le système suisse, le système mexicain ou le système américain en France, mais on ne peut pas, avec le système français tel qu'il est actuellement, dire « on fait élire les juges ». Il faudrait repenser, reconstruire tout le système. En revanche, un point qui peut être fait assez facilement, c'est de faciliter la transparence, de demander des déclarations d'intérêt, de situation aux magistrats. Alors, il faut le savoir, ceux-ci en font déjà. Simplement, ces déclarations sont réservées à leur chef de cour, le chef du tribunal, qui, elles sont strictement confidentielles, et ce chef de cour, éventuellement, peut solliciter l'avis du Conseil supérieur de la magistrature si des choses lui paraissent douteuses. Mais on a d'autres exemples en Europe. Alors, la Roumanie, dont on parlait tout à l'heure, où en Roumanie, il y a des déclarations d'intérêt qui sont publiques. Il y a un site internet que les Roumains, et même les autres d'ailleurs, peuvent consulter et qui permet de savoir eh bien, qui est le magistrat. Est-ce qu'il a des participations dans des sociétés financières? Est-ce qu'il est lié à des promoteurs immobiliers? Est-ce qu'il est propriétaire terrien? Est-ce qu'il appartient à des partis politiques? Est-ce qu'il appartient à des syndicats? Est-ce qu'il appartient à la franc-maçonnerie? Tout ça, ce sont des éléments qui sont publics en Roumanie et sur lesquels eh bien, un justiciable peut éventuellement s'appuyer pour récuser un magistrat. Dans l'affaire de Marine Le Pen, on sait que l'un des trois juges de première instance, la présidente de la juridiction, elle l'a dit, elle l'a revendiqué, elle est entrée en politique à l'admiration d'Eva Joly. Eva Joly, ce n'est pas n'importe quel juge, c'est un juge qui a eu un engagement politique en tant que candidat pour le Parti écologiste, Europe Écologie Les Verts. Avoir, quand on est un homme politique, en face de soi, quelqu'un qui explique son admiration pour la ligne et les actions d'un magistrat devenu homme politique écologiste, ça soulève question. À tout le moins, ça devrait pouvoir permettre de justifier la récusation du magistrat. Nous parlions de Nicolas Sarkozy tout à l'heure, est sorti juste après sa condamnation. Ça avait d'ailleurs été sorti, il me semble, par l'ASLA, l'Association de solidarité avec les lanceurs d'alerte, le fait que l'un des magistrats de la juridiction ayant condamné Nicolas Sarkozy, la présidente en l'occurrence, avait été une responsable syndicale, et même pas du syndicat de la magistrature, mais de l'autre syndicat, réputé plus mesuré, et qu'à ce titre, elle avait organisé des manifestations contre Nicolas Sarkozy. Normalement, la neutralité aurait exigé que d'elle-même, elle se déporte de cette affaire pour ne pas la trancher. Ici, il me semble que lorsque vous avez quelqu'un qui s'est engagé explicitement et publiquement contre vous, il devrait être possible de le récuser. Donc, la transparence et la récusation, ça, on peut le mettre en œuvre tout de suite et dans tous les types d'affaires.
Oui, tout à fait. Très bons exemples pertinents. Alors, je me posais la question aussi, parce que évidemment, s'il y a des réformes, s'il y a des manières de faire différentes, il faudra que, j'ai envie de dire, le système de formation derrière, il faut y penser bien évidemment, le système d'études de formation derrière suive. Et justement, j'aimerais vous poser la question. Peut-être que j'ai une image faussée, mais vu que le droit, c'est quand même très ordonné, très classifié, très méthodologique, bah, j'ai l'impression que l'IA, notamment, est très adaptée, l'intelligence artificielle est très adaptée au mode de droit. Comment vous pensez qu'on peut incorporer l'IA dans le système d'éducation et dans le travail judiciaire? Ou est-ce que vous pensez que le système actuel, pour être formé, est parfaitement en adéquation et qu'il n'y a pas besoin de le réformer en fonction des technologies récentes?
Alors, les techniques d'intelligence artificielle sont déjà utilisées par les juristes. On sait qu'elles peuvent notamment permettre de faciliter la prise en compte d'un dossier. On peut également obtenir assez facilement, relativement facilement par de l'IA, la constatation de l'existence de vices de procédure dans un dossier, par rapport à des dates qui ne seraient pas conformes d'une pièce à l'autre. C'est quelque chose qui est réel et ça, l'IA peut être beaucoup plus efficace, que la mémoire humaine pour les identifier. En tout cas, elle peut relever des discordances que l'être humain pourra aller vérifier derrière. Ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est bien de formation des juges dont on parle. Et ici, beaucoup de nos auditeurs, de téléspectateurs, ne savent peut-être pas, mais qu'aujourd'hui, les juges que nous connaissons ne sont pas des juristes pour l'essentiel. Entre les deux tiers et les trois quarts des candidats qui réussissent le concours de l'école de la magistrature chaque année sont principalement issus des instituts d'études politiques, qu'on appelle Sciences Po. Et donc, ils ne sont pas juristes. Alors, ils vont le devenir, ce ne sont pas des gens stupides. Ils sont souvent remarquablement intelligents, au moins dans l'intelligence du travail. Mais ce n'est pas la même chose que de faire Sciences Po que de faire 5 ans de droit. Alors souvent, ils font un peu de droit en complément pour préparer le concours, mais ce n'est pas la même chose qui leur est demandée, ce n'est pas le même type d'exercice. Et typiquement, à la magistrature, on s'aperçoit chaque année que les meilleurs résultats interviennent en note de synthèse ou en culture générale et absolument pas en droit. Et d'ailleurs, les présidents des jurys se plaignent de la baisse et du manque de compétences juridiques des copies qu'ils ont à traiter. Donc ça, une réforme à faire serait peut-être aussi s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger. On peut penser au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on ne devient juge qu'à partir de 35 ou 40 ans, après 10 à 15 ans de pratique professionnelle, comme juriste, comme avocat, et c'est à ce moment-là que l'on devient juge. Ce qui d'ailleurs fait penser à la Grèce antique, puisque à Athènes, si l'on pouvait voter dès l'âge de 18 ans lorsqu'on était citoyen, au contraire, ces mêmes citoyens ne pouvaient se présenter au tirage au sort pour devenir juge, faire partie du des Éliastes, eh bien, ils ne pouvaient le faire qu'à l'âge de 30 ans. Il y a ici cette idée que lorsqu'on est plus âgé, même si on garde la même sensibilité, les mêmes aversions, la vie vous a quand même lissé et donné un peu de distance par rapport à ce que l'on aura à étudier. À la magistrature, au premier concours, au grand concours, aujourd'hui, vous avez des candidats qui ont en moyenne 24 ans. Moyenne d'âge des candidats reçus en 2025, c'était 24 ans. Ça pose la question. Ça, plus la formation, sans même parler des milieux socio-professionnels ou de la sociologie du profil des candidats, cela interroge et je pense qu'on devra réfléchir aussi à cette question dans une réforme plus grande de la magistrature.
Je comprends effectivement. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Ah oui, aussi, parce que vous avez parlé par exemple en Roumanie, il y avait un site internet où les magistrats devaient voilà, parler de leur centre d'intérêt, c'est une obligation. Et est-ce que vous pensez qu'une justice de proximité élective, par exemple, permettrait aussi d'éviter des scandales en rendant les magistrats plus responsables devant les citoyens?
Alors, la justice de proximité élective, le terme peut évoquer deux choses. Soit l'élection des juges au sens strict, ça on l'a dit tout à l'heure, ça supposerait une réforme globale de l'organisation de la justice. Mais le terme élective, ça vient du latin eligere, choisir. Eh bien, oui, ça on pourrait le faire relativement facilement. C'est finalement ouvrir la possibilité aux citoyens de choisir leur juge au sens premier, c'est-à-dire celui qui va trancher le litige. Fréquemment, lorsque des entreprises ont des litiges, elles vont recourir à un arbitre, elles vont faire une conciliation, établir une transaction et régler le litige en dehors des prétoires, sans recours à un juge professionnel. Eh bien ça, on pourrait l'ouvrir beaucoup plus aux citoyens. Ça existait à Rome. À Rome, celui qu'on appelle, sous l'Empire, le iudex, donc au début de l'ère chrétienne, à partir du début de l'ère chrétienne, eh bien, le iudex, c'est celui qui va trancher le litige, donc le juge au sens premier, il est choisi par les deux justiciables d'un commun accord, c'est important, et il va trancher le litige. Il entendra les arguments du demandeur, du défendeur, il entendra leurs avocats, et ensuite, il tranchera. Eh bien, ce sont des logiques de résolution des litiges qu'utilisent au quotidien les entreprises. On peut, dès demain, aller dans le sens d'un assouplissement des conditions de recours à ces formes de conciliation. Et on irait beaucoup plus vite, cela coûterait moins cher, et par définition, comme les deux justiciables s'accordent sur la personne qui va les juger, il y aurait de fait une transparence et une confiance dans le juge.
Ma question pourrait être, ça pourrait être un peu innocent, mais vous avez bien compris que j'étais pas juriste, et je pense que la majorité de nos auditeurs ne le sont pas non plus, mais les juges peuvent déjà faire des abus au sens légal du terme, hein, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des sanctions derrière. Moi, j'aimerais vous poser la question, quelles sont ces sanctions? Et enfin, après avoir appliqué toutes les réformes dont nous aimerions voir appliquées pour éviter justement ce genre de cas comme avec le cas Le Pen, bref, les abus évidents, quelles sanctions on peut imaginer pour punir et dissuader les juges ou les magistrats qui seraient tentés d'abuser de leur position?
Alors, l'éventail des sanctions existe. Le fait est qu'aujourd'hui, elles ne sont pas mises en œuvre. Les juges sont d'abord jugés par eux-mêmes, par le Conseil supérieur de la magistrature, qui va juger soit sur saisine de la hiérarchie, soit du ministre, qui va juger les magistrats. Or, on constate que, donc c'est la procédure disciplinaire ici, hein, on constate que dans les faits, lorsque le Conseil supérieur de la magistrature juge des magistrats, il se montre extrêmement complaisant envers ceux-ci. Il y a de rares sanctions et les actes, peut-être pas les plus graves, mais des actes graves, comme par exemple le défaut d'impartialité, prouvé. Le plus difficile, évidemment, dans ces affaires étant de prouver un défaut d'impartialité, eh bien, on va simplement déplacer le magistrat de juridiction. Ça semble une condamnation beaucoup trop complaisante et faible. Un magistrat dont le défaut d'impartialité est prouvé, il remet en cause et il jette l'opprobre sur toute la profession. Donc, on ne voit pas comment il pourrait rester magistrat après une telle faute professionnelle. Et pourtant, en France aujourd'hui, il reste. Et le justiciable ne le connaît pas, parce que les décisions sont soigneusement anonymisées sur le site du Conseil supérieur de la magistrature. D'autres ont leur nom jeté en pâture dans la presse dès le début de l'instance, y compris lorsqu'ils sont relaxés par la suite, spécialement les politiques d'ailleurs.
Oui, bah oui, tout à fait. J'ai vu, je ne sais pas si vous connaissez l'avocat Avi Bitton, alors qu'il n'est pas du tout dans le même registre de la politique. C'est un avocat fiscaliste, et il expliquait dans une vidéo que beaucoup craignaient, les industriels ou même des avocats et des juges, ils avaient parfois plus peur des médias que des indemnités à avoir à payer ou des sanctions eux-mêmes, parce qu'effectivement, un média peut ruiner une carrière. Par exemple, je pense à
tout à fait.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà, ça c'est absolument certain.
C'est clair, c'est clair. Mais c'est une question encore une fois innocente, mais un juge qui va en prison, ça a dû exister, des juges qui ont été condamnés à de la prison, ils peuvent reprendre leur métier de juge après leur condamnation, ou il y a quand même, ils sont supprimés du barreau quand même?
Alors, un juge qui irait en détention, il y a eu quelques cas, en tant que tel, lorsqu'il sort de prison, rien ne l'empêcherait en théorie de reprendre ses fonctions. Sauf que, bien évidemment, une sanction pénale sera accompagnée d'une procédure disciplinaire. Et la procédure disciplinaire conduira à une sanction et au fait qu'il ne puisse plus exercer. D'autant que dans la condamnation pénale dont il pourrait être question, on lui fera peut-être l'interdiction, à titre de peine complémentaire, d'exercer telle ou telle profession. Voilà. Donc ici, soit il y aurait dans la sanction pénale, on aurait prévu le fait de lui interdire d'exercer telle ou telle profession, soit il y aurait une décision disciplinaire qui le sanctionnerait. Mais en soi, alors on va prendre l'exemple plus au-delà de la prison, une sanction pénale n'emporte pas de conséquences sur la situation statutaire. Prenons la sanction pénale la plus simple, un excès de vitesse de 3 km/h qui coûtera 45 euros n'aura pas de conséquence sur le statut. Voilà, je prends un peu cet exemple à l'absurde. On n'est pas dans la prison, évidemment. Voilà. Mais, voilà, en cas de faute prouvée, on se souvient de l'affaire de ce magistrat qui avait proposé sa fille sur les réseaux sociaux, un magistrat qui était en poste à Dijon.
Dans ma ville.
Il a été, alors pendant longtemps, on n'a pas connu son nom, même si aujourd'hui, on arrive à le retrouver. Lui, il a eu une condamnation relativement légère en première instance, mais devant le Conseil supérieur de la magistrature, sa révocation a été prononcée. D'autant que dans cette affaire, outre le fait d'avoir proposé des photos, proposé sa fille, sa défense était de dire que non, ce n'était pas vrai, il ne souhaitait pas vraiment le faire, c'était une sorte de spirale dans laquelle il était tombé. On sait qu'il y a aujourd'hui aussi dans cette affaire une plainte pour inceste et attouchement concernant sa fille. Donc, lui a été révoqué de la magistrature en tout état de cause. Mmh. Et révoqué de la fonction publique de l'État.
Mmh. Voilà. Très bien, très bien. Mais moi, j'habite à Dijon, et effectivement, localement, on a beaucoup parlé de cette affaire. Hein. Ça n'arrive pas tous les jours.
Heureusement.
Oui, heureusement. On l'espère. On l'espère. Les dernières questions que je vais vous poser, bien évidemment, vous avez écrit un livre qui s'appelle quand même, je rappelle hein, le titre du livre, « La République des juges contre la nation ». Nous sommes un parti politique qui, en plus, on se revendique fièrement nationaliste, le Parti de la France. Qu'est-ce que vous attendez d'un parti comme le nôtre, justement? Qu'attend votre livre d'un parti comme le nôtre? Quelles mesures, par exemple législatives, prioritaires, on devrait mettre en place pour faire face, justement, à la menace judiciaire contre notre nation, contre la droite nationale?
Alors, je pense que la réponse, c'est une réponse en trois temps, en trois points. Le premier serait un état d'esprit. Le deuxième point serait finalement des mesures conjoncturelles. Les premières mesures pourront être prises assez vite. Et le troisième point serait une réforme structurelle de la justice. Alors, si on prend ces trois éléments, premier élément, c'est un changement d'esprit. C'est-à-dire, il faut que le gouvernement, que les gouvernants, hein, que ce soit l'exécutif ou le législatif, à un moment donné, lorsqu'ils sont confrontés à une décision de justice qui leur semble contrevenir à l'intérêt de la nation, à la volonté des électeurs, il faut savoir que le gouvernement, le Parlement, dispose des moyens de contrer de telles jurisprudences. Il faut à ce moment-là avoir le cran, la volonté d'agir. Pour donner un simple exemple, c'était il y a bientôt 25 ans, au moment d'une... évidemment, le nom m'échappe à l'instant, ça va revenir. Une décision de la Cour de cassation avait fait scandale parce qu'elle reconnaissait finalement ce qu'on appelle le préjudice de vie, c'est-à-dire le fait de se plaindre d'être en vie. Voilà. Il y avait eu une erreur de diagnostic. Dans un diagnostic prénatal, les parents avaient poursuivi la grossesse et voilà, l'affaire Perruche. Et à la suite de la grossesse, l'enfant était né malade. C'est-à-dire que le diagnostic prénatal n'avait pas constaté l'existence de la maladie. Voilà. Et dans cette jurisprudence, la nouveauté de cette jurisprudence Perruche, c'est que la Cour de cassation reconnaissait l'intérêt de l'enfant dans cette affaire et le préjudice de l'enfant. Or, pour cet enfant, le préjudice était lié au fait même d'être né, puisqu'il était porteur d'une maladie. L'indemnisation des parents était déjà reconnue de longue date, parce qu'il y avait effectivement une erreur de diagnostic qui leur avait donné une mauvaise indication sur l'état de santé de leur enfant. En revanche, l'indemnisation de l'enfant, c'était une première. Cela avait suscité un tollé, puisque le seul moyen pour l'enfant d'échapper à son préjudice aurait été de ne pas naître. Voilà. Et donc, à la suite de cette décision, une loi a été votée, un amendement à la loi Kouchner sur les droits des malades, qui à l'époque, finalement, interdisait de se plaindre du préjudice d'être né. Donc, ce qui est symbolique de cette affaire, c'est que les gouvernants peuvent réagir et prendre une décision de justice, et prendre une loi pour contredire une décision de justice. Ça, il faut simplement une volonté pour le faire. Donc, c'est le premier point clé, c'est que les gouvernants aient la volonté de rétablir la primauté de la volonté, de la décision populaire. Voilà. Le deuxième point, la réforme qui pourrait être, intervenir de manière assez rapide, nous l'avons évoqué tout à l'heure, je crois que c'est la transparence vis-à-vis des engagements des magistrats et la possibilité de les récuser. Voilà. Aujourd'hui, la récusation obéit à des conditions extrêmement strictes. Cela devrait être assoupli et permettre de récuser un magistrat dont l'attitude permet d'avoir un doute sur la neutralité. Ensuite, de manière plus globale, ce serait une autre étape, le troisième point, c'est finalement une réforme plus globale de la justice dans laquelle on pourrait évidemment poser la question de la formation des magistrats, de l'âge des magistrats, de la question d'instiller une élection des juges ou une révocation des juges. Cela viendrait nécessairement après.
Et justement, pour contrer ou pour sortir de la République des juges, est-ce que vous pensez que des lois organiques suffiraient largement? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une nécessité de faire des révisions constitutionnelles?
Alors, je dirais que cela dépend des juges qui sont visés. Lorsqu'on a des décisions des cours suprêmes, des ordres juridictionnels, comme le Conseil d'État ou la Cour de cassation, on peut se satisfaire d'une loi pour les contrer. En revanche, aujourd'hui, si on est en présence d'une décision du Conseil constitutionnel, eh bien, contrer cette décision du Conseil suppose de remonter d'un cran dans la hiérarchie des normes, c'est-à-dire d'adopter une révision de la Constitution, soit par les parlementaires, soit par le peuple directement. Cela s'est déjà fait, et je rappelle simplement de quoi s'agit-il. On a une loi qui est déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel. C'était typiquement l'amendement Philippine qui visait à étendre la durée de rétention d'un étranger sous OQTF dangereux. Le Conseil constitutionnel l'a censuré. À ce moment-là, le seul moyen, c'est de monter d'un cran ce que la loi n'a pas pu faire. La loi constitutionnelle pourra le faire. Voilà.
Très bien. Et enfin, ma dernière question, elle est assez évidente, j'ai envie de dire, parce que pour donner, la primauté de la volonté du peuple, pour que la souveraineté du peuple soit respectée, encore faudrait-il que le peuple ouvre les yeux et admette que parfois, on est plus face à une justice, une justice militante qu'une justice équitable. Donc, comment on fait pour ouvrir les yeux au peuple avant de lui redonner pleinement sa souveraineté?
Alors, je crois que la première chose à faire, c'est de lire « La République des juges contre la nation » et de l'offrir à ses amis, en version papier ou en format informatique. Au-delà de ça et de cette boutade, je crois que le premier point, c'est de faire connaître. Il y a des associations qui agissent, qui interviennent sur ce champ. Je pense au remarquable travail réalisé par l'Observatoire des décisions de justice, qui cherche à faire connaître les biais, les déviations, les dérives de ce système. Il y a à s'informer soi-même, il y a à partager sur les réseaux sociaux un certain nombre de visuels, de vidéos, celles-ci, d'autres, de relayer les travaux de l'Observatoire, de relayer les travaux de l'Institut pour la justice également, plus centré sur le modèle pénal. Donc, faire connaître et en parler systématiquement aussi à nos élus qui doivent prendre conscience qu'aujourd'hui, les réformes dont notre pays a besoin, passeront nécessairement par un bras de fer avec une partie de la justice.
Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup Bertrand Saint-Germain pour votre efficacité et votre expertise, j'ai envie de dire, sur ce domaine. C'était un plaisir de vous inviter. J'espère, chers auditeurs, que vous aurez envie de lire l'intégralité du livre. Je vous rappelle, La République des juges contre la nation et comment en sortir. Il y a directement le lien de TV Liberté, la boutique, pour pouvoir l'acheter directement en haut de la description. Merci beaucoup Bertrand. Merci beaucoup pour
Merci
votre
de votre
gentillesse.
invitation.
Avec grand plaisir. J'espère qu'on vous reverra dans d'autres émissions que je pourrais organiser potentiellement. Je fais des émissions 3 fois par semaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Merci de partager cette émission. Merci, c'est très important, je pense. Et n'hésitez pas à la commenter pour me dire ce que vous en pensez de tous les propos qu'a tenu Bertrand dans cette émission. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à très vite pour d'autres émissions du Parti de la France.